Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons dire du mal de Michel Onfray. Voilà,
Pas vraiment du mal. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, si vous voulez, c'est très important, c'est qu'il n'est pas dans les habitudes de l'Institut des Libertés d'attaquer des personnes parce qu'elles nous plairaient et tout, ou parce qu'elles sont incompétentes. Parce qu'on ne saura plus où s'arrêter, quoi, et on ferait plus que ça. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire ce qui nous semble être raisonnable. Et là, Michel Onfray a publié dans le JDD, je ne sais plus quoi.
Ouais, le JD News, c'est-à-dire le journal le
un
week-end.
Un truc qui s'appelle La Droititude, qui est un petit papier, bon, du genre de ce que vous pouvez publier un samedi soir quand vous êtes fatigué, et dans lequel il fait un certain nombre d'affirmations sur le libéralisme, qui sont toutes.
Pour le moins discutable, oui.
Pour le moins discutable. Et la première, et ensuite je vous laisserai énumérer les cinq, hein, mais je voudrais d'abord dire quelque chose pour moi est essentiel. C'est que vous voyez, il commence son papier en disant. En disant que, dans le fond, le libéralisme amène à une théorie économique, à des théories économiques, etc. Or, le libéralisme n'a jamais été que une pratique du droit qui est en rapport avec la science politique. Alors, quel est le problème de la science politique depuis l'origine des temps? Allez, Aristote. C'est comment peut-on avoir un État à qui on donne le monopole de la violence légitime, pour parler comme Max Weber, et qui ne vous martyrise pas une fois que vous lui avez donné ce pouvoir. C'est-à-dire comment on empêche un État de devenir criminel. C'est le vrai et le seul problème de la science politique. La réponse de Locke, avec qui commence le libéralisme politique, mais pas du tout intellectuel, puisque ça commençait avec Aristote, en suivi par saint Thomas d'Aquin, puis les jésuites, etc., c'est le libéralisme est une théorie du droit pour empêcher l'État de nuire. Il faut que l'État soit contrôlé par quelque chose de tout à fait étonnant qui s'appelle la loi. Et cette loi, elle se décline en trois ou quatre domaines. Le premier, Locke a écrit des papiers admirables là-dessus, surtout un papier admirable sur la tolérance.
D'accord.
Il faut que les gens soient tolérants. C'est-à-dire que dans un pays, il faut que la tolérance règne entre les uns et les autres. Et que cette tolérance soit acceptée, quelles que soient vos idées. C'est-à-dire que dans un pays normal, les gens peuvent avoir des opinions différentes. Ça, c'était la grande idée de Locke. La deuxième idée, c'est que pour éviter que l'État ne devienne assassin, il fallait contrôler l'État par le pognon. C'est-à-dire que les ressources de l'État, les impôts, devaient être votés par les citoyens. Soit directement, soit par leurs représentants. Donc, c'était plus le roi qui décidait de combien il allait lever des impôts pour aller taper sur la France ou je sais pas quoi. C'était les citoyens qui décidaient, oui, si on est tous d'accord pour aller taper sur la France, on va lever des impôts pour ça et on vous les mettra à votre disposition. Mais tant que si vous avez le contrôle de la dépense de l'État par les citoyens. Ce qui était un élément très important. Le troisième élément qui était très important, c'est que si vous avez un débat, une dispute avec l'État, ce n'est pas l'État qui vous juge, c'est des jurys de citoyens. C'est-à-dire, ce sont vos pairs qui vous jugent. En aucun cas, vous ne pouvez avoir une justice qui est payée par l'État qui rendrait la justice au nom des citoyens. Donc, dans un régime démocratique, tous les crimes importants sont jugés et gérés par des jurys populaires. Ce qu'on ne fait plus en France, on est en train d'essayer d'éliminer le jury populaire parce que ces gens-là ne pensent pas bien, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième, qui est aussi extrêmement importante, c'est quand vous regardez, c'est que le produit de l'impôt doit servir au système régalien pour fonctionner. C'est-à-dire, vous levez des impôts pour fonctionner justement la justice, la police, l'armée, la magistrature, la diplomatie, etc. Donc vous avez ces quatre fonctions. Ça a été plus ou moins... Alors ce qui s'est passé, c'est que Locke, qui était un philosophe anglais de la fin du XVIIe, est parti un moment en Hollande, où il a appris un peu ses processus, parce que c'était beaucoup en Hollande que ça se passait. Et puis il est rentré en Angleterre, ses idées ont prospéré. On a remplacé les Stuarts par les souverains d'Angleterre, là. Et à ce moment-là, on a, dans le fond, une espèce de royauté lockéenne s'est mise en place. Et à la stupéfaction générale, on s'y attendait pas du tout, un siècle après, la croissance commençait en Angleterre, parce que l'un des points essentiels de Locke, c'était aussi le droit de propriété. Mmh. Vous ne pouvez pas vous défendre contre l'État si vous n'avez pas une propriété qui vous permet d'avoir des revenus. Si vous avez besoin de subventions, vous ne serez jamais libre. Donc, si vous voulez, ces 4 ou 5 points sont tous des points juridiques. Mmh. Et quand on écrit sur le libéralisme, les ignorer, c'est ignorer même la nature du libéralisme, qui n'est pas une doctrine économique, ce qu'il a l'air de sous-entendre, mais qui est une doctrine juridique et d'organisation de la cité pour éviter que l'État ne devienne criminel. Mmh. Or, vous remarquerez que depuis 2 siècles ou 3 siècles que Locke avait lancé son mouvement, on a eu un 19e qui a été un peu lockéen, où on réussissait à contrôler l'État par les dépenses. Et puis, depuis le 20e, on a redonné tous les pleins pouvoirs à l'État. Tous les artifices de Locke pour empêcher l'État de se développer ont été abolis. Et qu'on a eu les plus grands crimes comme l'humanité quand on n'a plus suivi Locke. Et quand donc on n'a plus suivi le libéralisme. Parce que c'est pas le capitalisme qui a commis les grands crimes au XXe siècle. Mmh. C'est des gens qui ont pris le contrôle de l'État et qui l'ont exercé de façon abominable parce qu'ils n'avaient aucune contrainte. Donc, si vous voulez, philosophiquement, c'est curieux de voir un homme politique, un homme qui se dit philosophe, qui ne comprend même pas la nature de la bête à laquelle il prétend porter accusation. Alors, s'il veut comprendre un peu ce que c'est le libéralisme, il pourrait peut-être essayer de lire Pierre Manant, Philippe Nemo, qui est un remarquable, ou bien, à la limite, si vous voulez, Bastiat, s'il veut apprendre à écrire le français convenablement, sans avoir l'air d'être un Allemand quand il écrit, quoi. Mais, je veux dire par là, c'est extraordinaire de voir un homme attaquer le libéralisme en partant absolument d'un angle qui n'est pas le but du libéralisme. Le libéralisme, c'est contrôler l'État et favoriser la naissance des individus responsables, juridiquement. Et puis, si se trouve que ça amène la croissance économique, tant mieux. Mais c'est pas le but.
Ouais.
Le but, c'est d'empêcher l'État de devenir criminel.
C'est-à-dire que c'est avant tout une philosophie du droit qui a derrière des implications économiques.
Mais à laquelle personne... Parce que si vous aviez dit en 1800... Parce que de mettons de l'an 1000 à 1800 en Angleterre, le niveau de vie était quasiment pas monté. Hmm. Puis dans les 2 ou 3 siècles qui ont suivi, il a été multiplié par 20. Donc, mais on s'y attendait pas du tout. La révolution industrielle, tout ça, c'est arrivé en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il y avait le droit de propriété. Hmm. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui recherche les causes premières, comme aurait dit Aristote, se planter à ce point-là, quoi. Alors maintenant, racontez-nous les 5 points qu'il a développés, là, parce que c'est aussi assez curieux.
Alors, il y a 5 points, effectivement, ce qu'il appelle les fables libérales. Alors, je cite le texte sans tout dire non plus.
Allez-y.
Il dit « La première est celle de la main invisible, théorisée par Adam Smith dans La Richesse des Nations, en vertu de laquelle, si on laisse le marché libre, le fameux laisser-faire, laisser-passer, une main invisible, celle du dieu post-chrétien, des déistes, équilibrera et harmonisera les choses. »
On a parlé du dieu déiste.
Alors oui, c'est un truc...
C'est lui qui rajoute ça, la main invisible. Alors moi, j'avais un professeur d'économie que j'aimais beaucoup à Toulouse, qui s'appelait Monsieur Clouzot, qui était un homme tout à fait éminent, agrégé d'économie, un des hommes les plus brillants de sa génération, un grand supporter de rugby d'ailleurs, et qui aimait pas du tout le football, donc un homme tout à fait éminent, évidemment. Et donc, qu'est-ce que disait Monsieur Clouzot, qui m'a fait beaucoup rire à l'époque? Il dit, vous avez la main invisible d'Adam Smith, où vous avez le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Mais entre les deux, il n'y a rien. Et que M. Michel Onfray me donne des exemples d'autre chose que des grands coups de pied dans le derrière de Staline. Mmh. Donc, si vous voulez accuser la liberté, comme il le fait individuel, d'être d'origine divine, bien sûr, il a raison. C'est même l'essence C'est même l'essence du christianisme.
Mmh. Oui, mais c'est il dit c'est post-chrétien. Bon,
c'est pas post-chrétien, c'est pas complètement chrétien. Dieu ne s'est compté jusqu'à un, ça a toujours été une de mes vieilles idées. Et donc que cet homme dise que c'est post-chrétien alors que c'est complètement chrétien, c'est ce que vous retrouvez chez saint Thomas d'Aquin, c'est Augustin, etc. Mmh. C'est la suprématie de l'individu sur le groupe. Ben, c'est bien pour ça que la croissance économique et les inventions sont arrivées uniquement dans nos pays et pas dans des pays mmh. où le groupe l'emportait sur là, où il n'y avait pas de main invisible. Hein.
Ouais.
Il n'y avait, ouais, avait que le pied dans le derrière.
Absolument. Là-dessus, sur Adam Smith, j'ai retrouvé une citation de lui que j'aime énormément. « Nous n'attendons pas notre dîner de la bienveillance de notre boucher ou de celle du marchand de vin et du boulanger, mais bien de la considération qu'ils ont de leur propre intérêt. Nous nous adressons non pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Nous ne leur parlons pas de nos besoins, mais de leurs intérêts. »
Alors c'est très intéressant parce qu'Adam Smith a écrit donc « La richesse des nations », qui a été un bouquin qui a révolutionné le monde. Hein. Mais il faut savoir aussi que son principale œuvre, à son avis en tout cas, c'était une théorie de messages moraux, quelque chose comme ça. Il se considérait comme un philosophe moraliste.
Oui.
Donc il réfléchissait sur ce qui était juste et ce qui était injuste dans la société. Donc lui, il en concluait que une société dans laquelle les gens poursuivent leurs intérêts, plutôt que de les forcer à je ne sais quelle justice sociale, marchait beaucoup mieux qu'une société où on vous disait tu vas t'occuper des autres même si tu n'en as pas envie. Quoi. Donc, ça n'est pas Adam Smith, c'est toute la chrétienté depuis l'origine qui dit que le salut est individuel. Le salut collectif, c'était une histoire des Juifs. Mmh. Le salut individuel, c'est une histoire chrétienne. Les Juifs avaient signé avec le Seigneur une convention collective. Nous, nous avons signé des contrats individuels. Donc on est passé de la convention collective au contrat individuel. Et les contrats individuels, ça marche beaucoup mieux que les conventions collectives.
Mmh, ouais.
Donc ils s'élèvent contre la liberté individuelle.
Oui, voilà, c'est
incroyable.
C'est-à-dire qu'il nous dit, en fait, la main invisible, c'est la loi de la jungle, la sauvagerie sans nom, la loi du plus fort.
Mais ce que dit la liberté, si vous revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de libéralisme, il n'y a pas un respect profond et total de la loi. C'est-à-dire, ça peut pas être le renard dans le poulailler, etc., parce que ça n'existe pas. Donc, c'est peut-être pour ça que beaucoup du capitalisme s'est installé dans les religions protestantes, c'est que la loi, c'était vraiment le cœur de la loi. C'est-à-dire que chacun devait être responsable individuellement. Mmh. Vous ne pouvez pas entendre, il n'y a pas de passager clandestin dans le libéralisme, chacun essaye de faire ce qu'il peut pour se dépatouiller tout seul.
Oui.
Mais c'est un message très noble, c'est pas du tout un message... si j'ose dire, que vous prenez tout le 19e, toutes les grandes œuvres caritatives qui existent encore aujourd'hui, je sais pas, la Croix-Rouge, etc., ont vu le jour dans des sociétés protestantes au 19e.
Oui.
C'est-à-dire d'aider les autres... Mais c'est un devoir que vous vous imposez à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Jamais le Christ n'a dit, je ne sais pas, à Jean, à Paul ou à Jacques, tu vas aller t'occuper de celui-ci. Le Christ nous dit à chacun d'entre nous, si tu veux t'occuper des pauvres, tu vas t'en occuper, mais t'emmerdes pas les autres.
Ouais.
Alors lui, il dit, le simple fait de dire tu le fais tout seul, c'est déjà une preuve d'égoïsme. C'est pas une preuve d'égoïsme, c'est une preuve de... L'individu est souverain sur la masse. J'ai raison et le reste du monde a tort. C'est ça la beauté du christianisme. C'est comment elle s'appelle celle qui a, vous savez, qui voulait enterrer son oncle parce que
Antigone. Antigone.
Antigone. Ben voilà, le christianisme c'est dans le fond Antigone. C'est-à-dire vous avez la loi naturelle et vous avez la loi humaine. Je respecterai toujours ma conception. À celle qui m'a été imposée par l'État.
Et en cela, le libéralisme et le christianisme, c'est le meilleur mariage qui soit. D'ailleurs, l'un est un peu issu de l'autre.
Directement de l'autre. Ce que j'essayais de montrer dans mon livre Un libéral nommé Jésus, c'est que toutes les grandes idées libérales viennent des évangiles. Et direct. Et d'ailleurs, toutes les sociétés libérales étaient chrétiennes.
Oui, absolument. Le point numéro 2, je crois que c'est peut-être le pire des 5. Alors il s'attaque à la théorie du ruissellement, il dit postulée par Jean-Baptiste Say dans son traité d'économie politique. Alors la théorie du ruissellement, c'est... alors, il nous dit, évidemment, la théorie du ruissellement est fausse. En fait, là, je voudrais faire une distinction entre les théories fausses et les fausses théories. C'est-à-dire que il nous dit la théorie du ruissellement est une théorie fausse. En fait, la théorie du ruissellement est une fausse théorie dans le sens où c'est une théorie qui n'existe pas.
Qui n'a jamais été présentée par le Camus libéral.
C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est faussement attribuée... Alors, ici, il nous l'attribue à Jean-Baptiste Say dans le traité d'économie politique. Alors là, je ne sais pas d'où il sort ça. Elle a été beaucoup faussement attribuée à Thatcher et Reagan dans les années 80.
C'est pas vrai non plus.
Ils n'ont jamais utilisé le terme. Enfin bon, c'est.
Mais ça veut dire que si moi je m'enrichis comme un goré, comme je vais dépenser plus d'argent, ça va tomber sur mes domestiques, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça du tout, la théorie du. Le capitalisme, si vous voulez, le libéralisme, c'est simplement si vous investissez comme il faut votre épargne. Que vous avez établi volontairement, si vous l'investissez volontairement dans des objectifs qui vous semblent les bons, il y aura ce qu'on appelle un approfondissement capitalistique, c'est-à-dire que chaque travailleur aura plus d'outils avec lesquels travailler, et à ce moment-là, comme il aura plus d'outils, sa productivité en montera et son niveau de vie montera.
Tout à fait.
Donc c'est exactement le contraire du ruissellement, c'est-à-dire que celui qui s'enrichisse dégage une épargne supplémentaire qui lui permet d'investir dans des activités où la rentabilité est forte, ce qui permet cet approfondissement capitalistique, de trouver des boulots. Et donc, historiquement, le niveau de vie a toujours suivi la productivité du travail. Et la productivité du travail a toujours suivi les investissements faits par les gens qui avaient assez d'argent pour investir. Donc, c'est exactement le contraire de ce qu'il dit, c'est-à-dire que lui, il pense que c'est la dépense des riches qui crée le ruissellement, alors que c'est l'épargne des riches qui crée le capital qui permet au niveau de vie de monter. Donc c'est... vous savez, Raymond Aron, quand il a commencé à être connu en 1945-50 par là, on lui demandait d'où lui venait sa connaissance économique. Parce qu'il était libéral, hein, soit dit en passant, lui. Il avait compris ce que c'était. Il avait dit, vous savez, aujourd'hui, la problématique la plus essentielle dans les sociétés, c'est l'économie.
Oui.
Donc moi, j'avais fait normal supplétre, brillant sujet, je crois qu'il était sorti premier d'ailleurs. Et donc, j'ai décidé de consacrer 3 ou 4 ans à étudier l'économie pour comprendre ce qui allait mener les... Donc, il a étudié l'économie, comme on pouvait l'étudier à l'époque, il avait tout ce qu'il avait, en plus, il était... un homme éminemment intelligent, et il est arrivé à la conclusion que la seule réponse honnable, c'était le libéralisme appuyé sur la loi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était bon. Mais j'ai pas l'impression que M. Onfray ait passé 4 ans à étudier l'économie.
Non, je ne pense pas.
Parce que sinon, il dirait pas toutes ces bêtises.
Oui. Non, mais ça c'est un truc vraiment, pour le coup, assez basique, l'histoire de la théorie du ruissellement.
Tout le monde sait, vous allez taper ruissellement sur...
Ouais.
Sur
Wikipédia ou n'importe quoi.
Et on vous explique, en effet, c'est un machin qui a été monté par les ennemis du libéralisme.
Tout à fait.
Pour faire apparaître le libéralisme comme idiot.
C'est
dans les années 30, je crois, d'ailleurs.
Oui,
C'est le fascisme qui avait monté ce mensonge, je crois, avec Mussolini. Donc vous dites, avant d'écrire quelque chose, vérifiez. Moi, par exemple, là, je suis en train d'écrire un papier sur ce qui s'est passé avec la fondation de la Fed en 1907 ou je sais pas quoi, j'ai été vérifier vaguement les dates en regardant Google, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, avant d'écrire des bêtises, je veux dire, j'écris des trucs, souvent c'est des bêtises, ça me gêne pas. Mais au moins, sur les questions de date, d'origine des théories, etc., vous pouvez
vérifier quand même. Oui, en plus, c'est très facilement vérifiable.
Très facilement. Donc, la théorie du ruissellement, tout le monde sait que c'est du baratin. Voilà. Ça n'a jamais été le cas à une histoire du libéralisme.
C'est ça. Le terme anglais pour le ruissellement, c'est le trickle down. Et jamais ni Reagan ni Thatcher n'ont utilisé ce terme-là. L'idée, c'est que les socialistes reprochent aux libéraux de vouloir faire des cadeaux aux ultra riches en motivant ces cadeaux par la théorie du ruissellement. En réalité, il faut prendre la chose à la base. C'est-à-dire que Jean-Baptiste sait, dans son traité d'économie politique, il ne nous dit pas qu'il faut faire des cadeaux aux riches pour que tout
cet argent... Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu à l'époque.
Voilà.
Quelle heureuse époque.
Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un cadre légal qui puisse créer de la richesse, et donc tout le monde s'enrichit et certains deviennent plus riches que d'autres. Donc à ce moment-là, oui, il y a un processus d'enrichissement d'une certaine élite qui permet aussi l'enrichissement global de la société.
Mais revenons à ce que vous dites, l'enrichissement, c'est très important. Mais quand vous dépassez un certain niveau de richesse, automatiquement, une partie importante de cette richesse ira dans votre épargne. Et donc, comme on sait que l'épargne sur le long terme en économie est égale à l'investissement, s'il y a une partie importante de la population dont l'épargne augmente parce qu'ils gagnent bien leur vie, ça veut dire que l'investissement va augmenter, et que donc la productivité du travail va augmenter, et que les gens en dessous vont avoir le niveau de vie qui va monter aussi. C'est ce qui s'est passé pendant tout le 19e. Il suffit de regarder les travaux de Jacques Marseille là-dessus, c'est parfaitement clair. Bon, mais ce que vous dit, si en prenant une théorie keynésienne imbécile, Monsieur Onfray nous explique que ce qui va déclencher la croissance, c'est le fait que ces gens vont dépenser plus parce qu'ils sont enrichis, et qu'ils vont dépenser dans, de la, dans des trucs complètement inutiles, et que lui, Michel Onfray, s'il était à la tête de l'État, il les empêcherait de le faire.
Ouais.
Mais encore une fois, c'est qu'il pense que lui, il serait mieux que ces gens qui ont travaillé, qui ont gagné de l'argent, qui l'ont mis de côté, pour investir dans des activités productives.
Ouais.
Donc c'est extraordinaire de voir qu'un homme aussi éminent que ça parle d'économie sans rien y comprendre.
Ouais.
C'est très étonnant.
Oui, c'est assez étonnant. Là, c'est littéralement ce qu'on appelle... C'est juste un homme d'opéra, quoi.
J'y connais rien en opéra.
Ouais, moi non plus.
Moi non plus. Je vais pas parler, je sais pas, de hockey sur glace ou des trucs comme ça. J'essaye de me concentrer sur les sujets que je connais. Mais quand je vois des gens qui se croient autorisés à parler de l'économie et qui, à l'évidence, n'ont rien étudié, n'ont rien compris, ça m'ennuie.
Le troisième point, c'est la paix par le commerce. Il nous dit c'est une scie musicale depuis l'esprit des lois de Montesquieu. Il nous parlait du doux commerce. Il dit pour qui le commerce entre les nations réalise la paix entre les peuples qui vendent et qui achètent. Alors, il ne s'agit pas de dire, même Montesquieu ne dit pas lui-même que le commerce permet instantanément la paix.
Revenez à Montesquieu, aussi curieux que ça paraisse. Louis XV signe un traité de commerce de libre-échange avec la Grande-Bretagne à peu près à l'époque de Montesquieu, si mes souvenirs sont exacts. Ça se développe comme une fusée. Les France, l'Angleterre se développent extraordinairement rapidement à ce moment-là. Ça marche très bien. Bon. Et puis, arrive la Révolution française qui se met à attaquer la terre entière mais qui fout en l'air. La guerre a commencé à cause de la Révolution française, et non pas à cause du doux commerce et du traité de libre-échange.
Oui, bien sûr.
Donc vous avez des crétins qui ont pris le pouvoir en France en 1792, 93, 94, du style de Robespierre, qui ont attaqué la terre entière, et qui ont empêché le commerce, et qui ont appauvri. Donc encore une fois, M. Onfray semble prendre la conséquence pour la cause et la cause pour la conséquence.
Ouais.
La conséquence, c'est que la France a cessé d'être gouvernée par des gens vaguement compétents comme l'était le roi pour être fait par des crétins de bourgeois. Et voilà, à partir de ce moment-là, on a eu des guerres, et puis ensuite on en a eu pendant... C'est recommencé au XXe siècle, et vous remarquerez que les guerres ont recommencé au XXe siècle qu'à partir du moment où on a cessé d'être libéral, quoi. C'est ça qui est étonnant.
Oui, en fait, je ne sais pas trop où cet argument va. C'est-à-dire que, effectivement, le commerce n'empêche pas l'existence de la guerre. Il existe des nations commerciales qui ont fait la guerre. D'ailleurs, il y avait une assez grosse interdépendance commerciale entre les pays européens juste avant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. En revanche, le manque d'interdépendance commerciale ne permet pas davantage d'empêcher la guerre. Je veux dire, je ne sais pas.
Vous avez qu'à voir, il y a M. Onfray devrait tout à fait cessante aller en Corée du Nord, où il n'y a pas de doux commerce, et où je suis sûr qu'il serait accepté avec enthousiasme. Mais en même temps, du point de vue culturel, c'est pas terrible. Donc, ça me rappelle, j'avais lu sur le développement de la Méditerranée, écrit par un historien très célèbre. Et cet homme disait, c'est tout à fait extraordinaire, chaque fois qu'il y a liberté de commerce, Venise, Florence, Anvers, bref, vous avez une immense explosion des arts, parce qu'il y a une explosion de la rentabilité. Donc, je ne sais pas si Monsieur Onfray a jamais regardé l'explosion artistique avec la liberté du commerce, mais les deux vont de pair. En quelque sorte, les tyrans ont toujours mauvais goût et les bourgeois qui commercent toujours bon goût. Et donc, ça m'attriste de le voir dans le rôle des tyrans, quoi.
Ouais. Oui, non, mais encore une fois,
si on aime les arts, il faut aimer Le libéralisme, parce qu'il n'y a que là où il se développe.
Oui, c'est pas complètement faux. C'est même pas faux du tout. Je suis du vent sympathique. Non, mais évidemment, le commerce crée quand même un coût de la guerre plus élevé pour à peu près tout le monde. Pendant les deux guerres mondiales du siècle précédent, toutes les richesses à peu près se sont pas complètement effondrées, mais enfin se sont considérablement amoindries.
Sans compter le nombre de gens qui est parfaitement doués, qui ont été tués, enfin celui.
Bien sûr.
Celui qui a, si vous voulez, ça, Apollinaire, ou n'importe qui, dans tous ces gars qui ont été tués en 1418.
À l'époque, même l'aristocratie avait un plus haut taux de décès dans l'armée.
Oui, c'est tout à fait.
Dans
quand on était dans une bonne famille, on se faisait tuer assez rapidement dans les guerres, parce que c'était, ça faisait partie de l'éthos familial.
Ouais. Oui, absolument. C'était le cas depuis le Moyen-Âge. Et
même, mais c'était l'impôt du sang, si vous voulez. Ouais. Les bourgeois payaient l'impôt. Les prêtres priaient pour notre salut éternel, on les payait un peu pour ça, et puis la noblesse allait se faire tuer. Ouais. C'était les trois ordres, comment il s'appelait le professeur à Bordeaux, qui avait c'est les trois ordres, le moine, le soldat et le paysan, je crois. C'était un très beau bouquin, tiens, il pourrait le lire.
Oui, sans doute. Et oui, donc tous ces mythes selon lesquels, par exemple, la Première Guerre mondiale serait une guerre déclenchée par les grands industriels pour s'enrichir, je veux bien qu'on me cite une famille d'industriels européennes qui s'est enrichie pendant la Première Guerre mondiale, parce que, à mon avis, il n'y en a pas des masses. À mon avis, les industriels français qui avaient toutes leurs usines en Alsace et en Lorraine, à mon avis, ils n'étaient pas hyper contents de...
Ça, c'était en 70, ils ont peut-être récupéré en 2014-18, mais on a récupéré en population en 14-18... en Lorraine et en Alsace, à peu près ce qu'on avait perdu sur le front, c'est-à-dire 2 ou 3 millions de personnes. Donc, j'ai toujours été la guerre la plus stupide de l'histoire, qui a été créée par Bismarck, qui voulait être de l'autre côté du Rhin pour que la France cesse de les envahir. Mais enfin, parce que c'était la France qui envahissait tout le monde au 18e, au 17e, etc. Donc, la guerre, c'est un phénomène naturel chez les hommes. Guy Bon, qui était un excellent journaliste, plutôt de gauche d'ailleurs, j'ai lu ses livres, qui était remarquable. Il avait été correspondant de guerre dans toute une série de guerres. Et il dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux qu'en cas de guerre. Parce que c'est un état qui convient bien à la nature masculine.
Ah oui.
Donc, mais il en était lui-même surpris, puisqu'il était tout à fait de gauche. Donc, si vous voulez attribuer la guerre, il paraît que les chimpanzés se font des guerres absolument, sauf les bonobos. Enfin, les autres chimpanzés, il y a des guerres atroces entre eux. Donc, la guerre, c'est quelque chose difficilement explicable, mais enfin, à laquelle la race masculine, enfin, le genre masculin, semble être assez attaché.
Oui. Alors, c'est sûr, il y a des expériences différentes, mais...
Mais je veux dire, même... ce genre capitaliste, royaliste, je veux dire, Staline, il a fait des guerres partout. Je veux dire, la guerre, c'est le désir irrésistible d'aller casser la gueule au voisin, quoi.
Oui. Oui, il y a des cas dans l'histoire, typiquement un type comme Ernst Jünger, il raconte dans Orage d'acier à quel point en fait il aime la guerre. Après bon, il y a d'autres témoignages, typiquement à l'Ouest rien de nouveau, là c'est beaucoup plus critique.
On est venu dans une notion, si vous voulez, on considère que la guerre c'est très très mal, mais dans la quasi-totalité des civilisations jusqu'à la nôtre, le soldat, c'est-à-dire celui qui mettait sa vie en jeu pour défendre la cité, était considéré comme l'être le plus considérable de la cité. Quoi. Ouais. C'était et donc aujourd'hui on considère que le soldat on n'en a plus besoin. Ben je crains que les civilisations qui ont considéré qu'elles n'avaient plus besoin du soldat, il y en a pas beaucoup qui ont survécu.
Ouais, absolument. Et ce commerce ou pas d'ailleurs, n'en déplaise à Michel.
Le commerce n'a strictement rien à voir avec ça.
Ça n'a rien à voir.
Ça me rappelle l'histoire de Chirac qui faisait sans arrêt des non sequitur, vous savez. Ouais. Il fait beau aujourd'hui parce que j'ai été à la pêche hier. Rapport entre les deux.
Bah c'est exactement ça. C'est ce
qu'il fait.
Aucun
rapport entre
les deux.
Encore une
fois, c'est un peu comme le truc précédent avec la théorie du ruissellement. C'est non sequitur.
Ça n'a rien à voir avec la moindre.
Voilà. Alors le quatrième point, c'est l'utilité des vices privés. Et alors il nous dit, l'utilité des vices privés sous prétexte qu'ils généreraient des vertus publiques, c'est la thèse proposée par Mandeville dans sa fable des abeilles, dans laquelle il assure que le voleur est vertueux car il rend possible la vie du policier qui l'interpelle.
Non,
du
il n'assure pas ça, il assure. Il assure que la recherche de l'intérêt privé l'emporte sur l'intérêt général et donne un intérêt général qui est supérieur. Et là, il faut remonter très loin dans l'histoire de la chrétienté. C'était Abélard qui a fait la distinction essentielle entre le crime et le péché. Bon, le crime, c'est quelque chose qui est puni par la loi.
Ouais.
Donc, je n'ai jamais entendu dire un libéral que quelque chose qui est comme, par exemple, de tuer son voisin, était, même si c'était profitable, était quelque chose qui était recommandé. Donc, le crime est complètement...
C'est ça. Là, il confond cela.
Il confond crime et péché.
Quand il dit vice privé, après, il prend l'exemple d'un voleur. Là, voilà. C'est complètement erroné.
C'est complètement erroné. Donc, par contre, le péché, tel qu'il est défini, ça ressort de l'initiative individuelle. Mmh. J'ai péché, j'ai regardé une femme avec un œil concupiscent, ce qui peut arriver à tout le monde. Hein. Et donc, à ce moment-là, si je peux me confesser, donc, la grande séparation d'Abélard, c'est la séparation entre le péché, qui ne révèle que de la morale individuelle, et le crime qui doit être puni par la loi. Et ce que disait ce brave théorie des abeilles, là, c'était que suivre ses penchants, ça peut amener d'excellents résultats, même si c'est considéré comme un péché par l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que donc le crime reste puni dans tous les cas, dans la libéralité, il n'y a pas le moindre doute, il est toujours puni. Mais si par hasard vous trouvez que, je sais pas, spéculer sur les bonnes bouteilles de Bordeaux que vous achetez maintenant et qui seront à boire dans 30 ans et dont le prix aura multiplié par 40, ça va peut-être amener à une certaine dose de prospérité en Bourgogne. Voyez ce que je veux dire? Donc, dans cette phrase, il montre qu'il n'a pas compris la différence entre le crime et le péché.
Oui.
Ce qui est incroyable.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
parce que ça fait 10 siècles qu'on fait ça.
Quand on parle des vices privés, en fait, on parle de la jalousie, de...
Mais des péchés, on parle des péchés.
On parle de la cupidité, de la luxure, c'est ce genre de choses. Là, il nous prend l'exemple, c'est complètement hors sujet, il nous dit qu'en fait, la morale de la fable de Mandeville, c'est que le voleur crée des richesses parce que on a un policier, on a la justice, on a la prison.
Parce que ça a été montré comme faux par Bastiat dans la fameuse histoire de la vitre brisée, que j'invite aussi monsieur Onfray à lire, parce que qui est d'ailleurs la base du keynésianisme. Si on casse une fenêtre, ça crée de la richesse, puisqu'il va falloir un vitrier, etc.
Oui.
Et Bastiat montre à quel point c'est couillon.
Oui.
C'est complètement fou. Parce que... Et donc, oui, il retombe dans toutes les... Si j'ose dire... Il n'y a pas une trappe à éléphant dans laquelle ils tombent pas, quoi. Pourtant, on les voit bien sur la route. Elles ont déjà été remarquées 25 fois, quoi.
Oui, oui. Non, mais ils s'en fichent.
Ils s'en fichent. Et alors, c'est très curieux, cette façon d'affirmer des choses qui ont déjà été prouvées fausses, je ne sais pas combien de fois, et de les continuer à les répéter en partant du principe, comme le disait Goebbels, que si vous répétez suffisamment de fois un mensonge, ça sera accepté comme une vérité par le public. Mais ça fait un siècle et demi que... Les ennemis. Vous savez, le fascisme, c'est tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État, disait Mussolini. Donc, grosso modo, l'ennemi naturel du fascisme, c'est le libéralisme, puisque on essaie de limiter l'État. Et lui, si vous voulez, il se porte en défenseur tout à fait remarquable du fascisme contre le libéralisme. C'est-à-dire, il réclame plus de pouvoir pour l'État. Implicitement dans tout ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'une décision collective sera meilleure que la somme des décisions individuelles. Mais, c'est pas vrai.
Ouais.
Ça n'a jamais été le cas.
Alors ça aussi, c'est. Je sors de cet article particulièrement pour aller sur les raisonnements généraux de Michel Onfray. C'est quelque chose qui est souvent assez frustrant avec lui, c'est qu'il nous dit ça va pas. C'est-à-dire que pour le coup, c'est pas un défenseur du socialisme. Il a maintes fois critiqué le socialisme, le communisme sous toutes ses formes, etc. Et c'est pas un immense étatiste. En revanche, voilà, son grand type, c'est Proudhon. Lui, il aime aiment bien le mutualisme, les gens qui aiment se mettre ensemble, des petits groupes, voilà.
Le mutualisme, c'est une très belle invention, j'ai rien contre, d'ailleurs ça marche parfois. Le problème du mutualisme, c'est que il y a des gens qui se mettent ensemble, et Bastiat a écrit des pages admirables là-dessus, il dit bon, alors le désir de la santé, c'est un des désirs les plus importants qui soient. Donc les gens vont se mutualiser, par exemple, autour de Dax, ils vont créer des espèces de mutuelles pour se payer les notes médicales des uns et des autres. Puis comme ça marche, ça va devenir de plus en plus grand. Puis à la fin, il y aura un système national, et puis il y aura tellement de passagers déglingués dans le système national que le système fera faillite. Mmh. Donc il décrit ça en 1840, la sécurité sociale a été établie en 1945, je crois. Donc vous voyez, quasiment un siècle avant. Il explique comment ça va se passer, comment ça va aller en faillite, et comment ça... Bref. Ça, c'est une façon de raisonner d'un philosophe, c'est-à-dire de voir comment les gens travaillent, ouais. Les gens se mettent en place, se mettent ensemble. Le mutualisme, le problème que vous avez, c'est que si les dépenses deviennent supérieures aux engagements pris par les mutualistes, à ce moment-là, la charge retombe sur l'ensemble des mutualistes. Ouais. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir des gens qui sont ruinés, simplement parce qu'ils ont pris des... Ils ont dit, oui, moi j'ai vu ça avec les Lloyds à Londres, où il y a plein d'Anglais qui ont été ruinés parce qu'ils avaient pris cet engagement mutualiste. Mais ce que les gens voient pas, c'est que la beauté du capitalisme, c'est justement d'avoir inventé la société à responsabilité limitée. C'est-à-dire que vous dites, je mets 1 million d'euros de capital sur la table, s'ils sont bouffés...
Ça s'arrête là.
Ça s'arrête là. Donc ils ont arrêté la remontée perpétuelle de la responsabilité qui empêchait tous les gens de prendre des décisions individuelles.
Et prendre des risques.
Encore une fois... Il va favoriser une solution qui n'en est pas une.
Ouais.
Le mutualisme, ça n'empêche pas la responsabilité. Il y a un moment où la responsabilité s'arrête dans le capitalisme, c'est au capital que vous avez mis.
Mmh.
Et c'est encore une fois extraordinaire, parce que ça a été une invention qui, d'après Nando de Soto, pourquoi le capitalisme est réussi en Occident et nulle part ailleurs, ce qui est d'ailleurs plus vrai,
c'est vrai.
Permet de diffuser, d'enlever la responsabilité illimitée.
Ouais. Ouais, c'est une constante chez Michel Onfray. Il critique en permanence ce qu'il observe, mais derrière, il dit un peu bon, j'ai pas mieux, j'ai pas vraiment mieux à proposer finalement. C'est un peu ce qui ressort.
Et donc, quand je le lis ou que je l'écoute, je me dis ciel. Dans le fond, il veut que nous mourions de. Nous sommes à la fin de notre civilisation. Et si je veux dire que nous mourions avec élégance.
Oui, c'est ça, avec une certaine élégance, et si possible, avec une certaine passivité, tout en disant que c'est regrettable. Mais voilà, c'est, à chaque fois, c'est sa rengaine habituelle, parce qu'en plus de ça, il se répète énormément, il a les mêmes éléments de langage en permanence, et il dit, bon, voilà, notre civilisation est en train de mourir, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est en train de... Bon, j'ai envie de dire, Michel, réveille-toi un petit peu, enfin...
Ben, c'est à comparer avec Saint Augustin, qui voyait la civilisation romaine s'effondrer autour de lui, et qui en a tué la cité de Dieu, si vous voulez, qui est un des livres les plus admirables qui a jamais été fait. Donc, dans un cas, on dit, ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et puis, on va se taper un coup de rouge. Et dans l'autre, vous faites un livre qui permet à la civilisation suivante de s'établir.
Mm-hmm.
Ben, j'aurais préféré que Michel Onfray s'en consacre au deuxième plutôt que de se lamenter sur le premier, quoi.
Oui, il a un petit peu choisi.
Il a peut-être la capacité, j'en doute pas, d'ailleurs.
Je pense qu'il en a la capacité intellectuelle et la capacité de travail, mais là, je crois qu'il choisit un petit peu la simplicité. Le cinquième et dernier point, il critique Schumpeter, la destruction créatrice. Il nous dit que les inventions font disparaître une production ici, ça induit ailleurs le surgissement d'une nouvelle production. Il nous décrit la destruction créatrice. Sauf qu'il nous dit, dans la réalité, la mécanisation, bientôt l'IA, génère un chômage de masse socialement et politiquement toxique. Alors là, je ne sais pas d'où il sort ça.
Bah, si vous voulez, déjà, ça avait été... Attendez, c'était à Lyon, dans les années 1830, où il y avait une révolution parce qu'on avait trouvé... la révolution des canuts, je crois que ça s'appelait.
Oui, tout à fait, à Lyon.
À Lyon, parce qu'on avait trouvé une façon de faire le tisser différemment, et que ça allait enlever tout le boulot, etc. Donc, si je comprends bien ce que me dit monsieur Michel Onfray, soyons clairs, Gutenberg a été une invention abominable.
Oui, bien sûr, ça a mis au chômage tous les moines copistes.
Voilà, voilà. Et donc, monsieur Onfray...
Au travail monsieur Michel Onfray.
sa revue qui s'appelle Front Populaire, je crois. Et puis, elle n'aurait jamais été... parce que c'était pas des moines copistes qui allaient copier ça puis les livrer, quoi. Donc, je veux dire... Et puis, je sais pas, mais... je sais pas, le vaccin contre la polio.
Oui.
Ça a permis à des tas de gamins de ne pas être brimbants. L'invention de la médecine moderne, ça a permis à des tas de gens de... Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est avant qu'on le voit, avant Monsieur Monfray est complètement centré sur la France, c'est que depuis 40 ans, depuis l'ouverture des frontières avec l'Asie, etc., la chute de l'Empire soviétique, vous avez à peu près 2 milliards d'êtres humains, depuis 30 ans, qui sont passés de la misère la plus noire à la classe moyenne. Ce qui ne s'était jamais produit dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, jamais. Et donc, M. Onfray nous dit que le capitalisme amène toujours au chômage. Mais ce qui est amusant, c'est que si vous prenez le chômage, vous prenez par exemple combien de temps il fallait travailler pour acheter un kilo de pain en 1800. Il fallait à peu près travailler une journée. Hein. Aujourd'hui, il suffit de travailler 5 minutes. Donc, vous dites, mais tous les livres faits, ça me rappelle irrésistiblement l'histoire qu'a racontée Sauvy, qui était un grand homme, comme chacun le sait, je l'aimais beaucoup, qui était un grand économiste, qui était de gauche d'ailleurs. Il racontait qu'il avait été visité avec, je crois que c'était Mitterrand, un chantier où il y avait des bennes, vous savez, qui creusaient la terre avec des grosses pattes comme ça. Et il se félicitait de le travail qui allait être fait là avec M. Mitterrand. Et M. Mitterrand lui avait dit, mais enfin, cher ami, s'ils avaient des pelles, vous vous rendez compte du nombre d'emplois qu'on pourrait créer à la place de ces grosses pelles automatiques. Et il dit, monsieur le président, vous avez tellement raison. Et si on leur donnait des petites cuillères, il y en aura encore plus. Donc, si vous voulez, derrière Michel Onfray, il y a un refus du progrès technologique qui a permis une hausse du niveau de vie. Aujourd'hui, le clampin de base en France est beaucoup mieux soigné que Louis XIV. Ouais. Et il vit 30 ans de plus.
Oui. Et y compris les chômeurs.
Y compris les chômeurs.
Il nous dit que ça crée du chômage de masse. C'est pas vrai, mais en plus, même un chômeur, il est mieux soigné que Louis XIV.
Et quand je regarde ce que les travaux que je fais moi-même à ma modeste échelle, je mets les profits des sociétés sur un axe, et de l'autre côté, je mets l'emploi ou le chômage. Ben, vous voyez que quand les profits augmentent, le chômage diminue, et quand les profits diminuent, le chômage augmente un an après. Donc, ce que me dit M. Onfray, grosso modo, c'est que les profits des sociétés fait...
Ça crée le chômage.
Ça crée le chômage, alors que c'est la solution au chômage. Mais par contre, si vous prenez le même graphique et vous montez le poids de l'État dans l'économie, si le poids de l'État dans l'économie augmente, le chômage augmente toujours. Donc, cet homme semble encore une fois prendre les causes pour les conséquences et les conséquences pour les causes. Et je suis déçu de la part d'un homme qui pourrait être aristotélicien, ça je lui ferais pas plus de mal, passé par saint Thomas d'Aquin, qui était un peu l'ennemi intellectuel en tout cas de ce bon Abélard. Et arrêter peut-être de parler d'un sujet, le libéralisme, auquel il ne comprend rien, sur lequel il ne sait rien.
Ouais.
C'est-à-dire que cet homme parle sur des trucs qu'il a vaguement lus, qu'on lui a vaguement dit quand il avait 20 ans, et qui sait que c'est tous ces trucs, c'est faux, c'est des conneries. Donc je suis déçu de voir qu'un homme comme ça ne se donne pas la peine de se questionner lui-même.
Ouais.
Je ne devrais pas parler d'un sujet sur lequel je ne connais rien.
Oui, et là, pour le coup, c'est quand même...
C'est atterrant.
C'est assez atterrant. Il y a vraiment des erreurs, je veux dire... Déjà, la moitié de la copie est hors sujet.
Oui.
Complètement. Enfin, je veux dire, le point 2, 3, 4 est complètement hors sujet. Le point 1 est faux, le point 5 est faux. Voilà, c'est...
Et en plus, il considère que le libéralisme, c'est une doctrine économique, alors que c'est tout sauf. C'est une doctrine juridique.
Non mais dire que la mécanisation bientôt l'IA génère un chômage de masse, je comprends même pas comment on peut expliquer ça. Déjà lui, il est issu d'une famille de paysans.
Son père était ouvrier agricole. Bon, ils n'étaient pas propriétaires.
S'il n'y avait pas eu la mécanisation, à aucun moment il aurait fait une carrière telle qu'il l'a faite. C'est juste impossible. Il aurait peut-être même pas dépassé les 30 ans, puisqu'il avait fait un AVC assez jeune. Je ne sais pas si la médecine, sans mécanisation,
ce qui est étonnant dans son cas-là, si on se replace au 14e ou 15e siècle, ce qui aurait pu se passer, C'est que Michel Onfray aurait été repéré par l'église du village et on l'aurait fait monter doucement, parce que la façon pour les gens brillants qui n'étaient pas nés dans les bons milieux, c'était de monter par l'église, si vous voulez. C'était le... Donc il serait peut-être devenu évêque ou cardinal.
Oui.
Et puis il aurait continué à dire du mal de la royauté, j'imagine.
Oui. Oui, c'est à peu près ça. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, pour l'instant, on n'a mesuré aucun effet sur le chômage de l'intelligence artificielle. Peut-être que ce sera le cas, j'en sais rien. Et derrière, ça créera aussi un nombre d'opportunités absolument incommensurables. Enfin voilà, c'est je sais même pas par où commencer, quoi.
L'intelligence artificielle, je me tue à dire aux gens toujours, moi, vous savez, l'intelligence, même artificielle, ça sera jamais un problème. Parce que le vrai problème de jour dans la vie, c'est la connerie naturelle.
Oui.
Et je crois que nous en avons eu un exemple parfait.
Et on n'en manque pas.
Et on n'en manque pas un exemple parfait d'une connerie qui se revendique intelligence.
Oui.
Mais ça, je comprends pas.
Bon. Ben voilà, pour refaire le portrait un petit peu, c'est pas gratuit du tout, hein. D'ailleurs, on n'avait même pas prévu au départ de faire une émission là-dessus, mais simplement...
On a vu arriver Stex et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ?
Oui, en fait...
On peut pas laisser ça passer, ça.
Ouais, c'est juste un cas d'école, c'est tellement... Je sais pas si c'est... J'ai pas envie de croire que c'est de l'incompétence, je préfère
c'est
croire
enfantin.
Que c'est... Ouais, je... Bon... Les cinq points sont absolument discutables.
Donc, pour nous résumer, le libéralisme, ce n'est pas une doctrine économique, point numéro un. C'est un recommandé de pratique juridique. Et ensuite, les cinq points qu'il développe sont tous ni faits ni à faire. Ils sont la plupart du temps faux. Et il y a des gens qui ont consacré des études considérables, Cairn en Angleterre, sur la hausse du niveau de vie. En Angleterre, de 1800 à 1900, dont je ne saurais trop recommander la lecture, ou bien alors Jacques Marseille, qui a été un excellent universitaire français sur la colonisation et la hausse du niveau de vie, qui pourrait lire aussi. Donc si vous voulez nier l'extraordinaire hausse du niveau de vie qui a été créée par le libéralisme et son enfant naturel, le capitalisme, c'est vraiment prétendre que, je sais pas, le goulag n'a pas existé si on est communiste. Quoi.
Ouais.
C'est un déni de vérité.
C'est ça. Bon, voilà pour le portrait de Michel Onfray. Au départ, j'avais prévu de faire qu'une seule partie de cette émission là-dessus. On arrive à presque 50 minutes.
Bon, je crois qu'on l'a bien habillé pour l'hiver.
Donc, je crois que oui, on l'a bien habillé.
On l'aime bien, hein, c'est pas un problème. Parce qu'il y a des tas de choses qu'il dit qui sont vraies, mais de grâce qu'il ne parle pas des sujets sur lesquels il n'a aucune lumière.
Oui, ou alors qu'il fasse quelques revérifications derrière. Je ne veux même pas que Michel Onfray devienne libéral, c'est même pas ça. C'est juste, là, il faut quand même revoir la copie largement. Quoi. C'est vraiment pas au niveau.
C'est juste triste.
Je pense que même un communiste aurait fait mieux. Voilà, c'est dire. Enfin bref, je crois qu'on va peut-être conclure l'émission là-dessus. Parce que, bon, on arrive quand même à presque 50 minutes.
Si vous voulez trouver l'article, il avait été sur le JDD, ça doit être...
Sur le JD News de novembre 2025, du début novembre, du 5 novembre. Donc voilà, si vous voulez absolument trouver l'article, il est là-dedans. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.
Et c'est pas du tout notre habitude de dégringoler des
absolument
gens.
Absolument pas. D'ailleurs,
On ne dégringole pas Michel Onfray. On essaye de dégringoler... une attaque sur le libéralisme qui n'est pas convenable.
Oui.
Il y a des gens qui font des attaques sur le libéralisme qui sont de bonne qualité, mettons Keynes, mais ça n'est simple, parce que c'est appuyé sur des arguments faux, et donc tout le monde sait qu'ils sont faux.
Oui. Là, pour le coup, c'est même pas à la hauteur d'un élève de première année. Donc là, honnêtement, c'est ni fait ni à faire. Donc voilà, faut revoir la copie. Peut-être, monsieur Onfray, si jamais vous nous regardez, peut-être revenez le mois prochain avec une meilleure copie. Prenez plus que 10 minutes pour écrire. Parce que là, j'espère que ça a pris pas plus de temps que ça. Parce que très franchement, y a pas de recherche tellement. Donc bon. Voilà, c'est pour conclure. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.